Gabriel Oliver Aguillon.
France Musique est à vous. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous sommes ensemble encore en direct pendant une demi-heure et la joie de découvrir ces musiques que vous aimez tant. Christiane à Vienne-en-Val qui nous propose d'écouter le violoncelliste Daniil Shafran. Noël pour La jeune fille et la mort par les dissonances. Eric pour le ténor Robert White ou encore Michel à Ouistreham. Béatrice à Paris, très heureuse de ce moment qui nous lie les uns aux autres. Et Natacha également. Très très bonne matinée. Il est 9h.
Thank you.
Le trio Melbonis dans ce premier mouvement du trio pour flûte traversière, violoncelle et piano en mi mineur, opus 45, non pas de Melbonis mais de Louise Farinck, une œuvre qu'elle compose en 1856. Merci pour vos messages et vos retours sur la programmation de ce matin, de ces beaux partages. Bonjour à vous, Henri, Marc, également Josquin qui est à Saint-Égrève et qui nous dit que les enfants aiment beaucoup le France Musique est à vous junior à partir de 8h30. Merci beaucoup pour ce retour et puis évidemment bonjour aussi à Michel qui nous écoute à Plancoët et qui nous dit, qui en tout cas me dit de faire très attention à vélo dans Paris. Oui, je fais attention, c'est promis. Et tout de suite, la suggestion eh bien non, c'est Léo qui arrive sur le répondeur, le voici.
Bonjour France Musique, c'est Léo. J'aimerais proposer des Bacchanas Brasileiras numéro 4 de Heitor Villa-Lobos par Nelson Frère au piano. Les sons viennent du fond de la terre. Appel à l'origine, appel au devenir. Les sons jaillissent et forment un chant profond, illuminant la nuit de l'univers. Même si on ne connaît pas leur sens, leur harmonie réconforte, durant un bref instant, on aperçoit une présence, une esquisse, un sourire. Merci.
Que de frissons en écoutant cette Bacchanas Brasileiras numéro 4 d'Heitor Villa-Lobos, interprété par Nelson Freire, un géant qui nous a quittés il y a tout juste 3 ans. C'était le 1er novembre 2021. À 9h15, c'est tout de suite un aperçu que je vous donne de votre soirée lyrique. Car oui, ce soir, dans Samedi à l'Opéra, Judith Chen présentera dès 20h l'opéra Les Brigands de Jacques Offenbach, enregistré par nos équipes en octobre dernier, il y a quelques jours, à l'Opéra Garnier de Paris. Il est donc diffusé sur France Musique pour vous, comme si vous y étiez. Une mise en scène qui avait l'air absolument somptueuse de Barry Kosky. Vous y étiez peut-être d'ailleurs. Des brigands en quête d'un coup nouveau, une délégation espagnole, un gros magot, un caissier pas très honnête, des carabiniers qui arrivent toujours trop tard. Il y a tout ce qu'il faut en guise de rebondissement et déguisement de cet opéra bouffe d'Offenbach créé en 1869 à Paris. Un livret de Meillac et Halévy, un petit bijou de drôlerie qui en profite pour envoyer des petits pics au milieu financier du Second Empire. Les chœurs et l'orchestre de l'Opéra National de Paris étaient dirigés par Stefano Montanari. Dans la distribution, Marie Perbost, Antoinette Denfeld ou encore Marine Chagnon, Laurent Naouri et Mathias Vidal, avec évidemment cet orchestre et ce chœur que vous pourrez entendre ce soir à partir de 20h dans Samedi à l'Opéra. Je vous propose d'écouter le début de Ces Brigands.
le vent dans la montagne a retenti trois fois. Alerte, mes amis, accourez, accourez à ma voix. Qui vive les brigands, les brigands. Vite le mur passe.
Le chœur et l'orchestre de l'Opéra National de Paris, dirigé par Stefano Montanari. Dans les premières mesures des Brigands, cet opéra de Jacques Offenbach qui a été enregistré il y a quelques jours à l'Opéra Garnier de Paris et qui vous sera présenté par Judith Chen ce soir à partir de 20h dans Samedi à l'Opéra, un opéra chez vous dans son intégralité comme si vous y étiez. Merci beaucoup encore pour vos suggestions musicales qui nous arrivent, que nous n'aurons pas le temps d'écouter ce matin, mais dans les prochaines semaines, c'est promis. Sixtine pour le concerto pour violoncelle d'Edouard Lalo, Emmanuela qui nous propose Gustavo Dudamel, ou encore Julien qui veut écouter Le Barbier de Belleville par Serge Reggiani et tant d'autres. Merci et un grand merci oui à Sophie, Hélène, Ludwig ou encore Paul, et puis Moni aussi qui était heureuse d'écouter Maria Faranduri chanter Asmaton de Théodorakis. Elle souhaite écouter une autre version de ce cantique des cantiques, Angélique Yonato. Et ce sera pour très bientôt, c'est promis. Voici la suggestion d'Inès et grâce à elle, nous terminerons avec Jean-Sébastien Bach tel que nous avons commencé cette émission. Un Jean-Sébastien Bach bien particulier, son concerto pour deux violons et orchestre BWV 1045, mais par trois musiciens mythiques, Eddie Lewis et Stéphane Grappelli au violon et Django Reinhardt à la guitare. Trois musiciens qui révolutionnent l'œuvre entre jazz et manouche, ça marche absolument. Thank you. baroque qui n'en finit pas de nous faire danser, ça accélère. Ils improvisent Django Reinhardt qui, avec sa guitare, remplace tout un orchestre et aux deux violons, Stéphane Grappelli et Eddie Sousse, un enregistrement de 1937. Un immense merci, Inès. Merci d'ailleurs à vous toutes et tous pour cette bulle humaine, partageuse et qui s'ouvre musicalement aux autres le temps de notre émission. Grâce à votre participation, un grand merci. La réponse à notre jeu tout à l'heure, 1986, la date de l'inauguration du musée d'Orsay qui a pris sa place dans ce monument historique, cette gare, et qui donc devient musée 1986, ouverture du musée d'Orsay, où a lieu en ce moment l'exposition La musique des couleurs de la peintre norvégienne Harriet Becker. Vous remportez des billets pour cette exposition, bravo à vous, Marc de Nouret, Marie-Stéphane à Orsay, ou encore Bernard de La Haye les Roses. Merci beaucoup à toute l'équipe de France Musique et à vous, Jean Brémond et Jeanne Agrapard, attachés de production, le discothécaire Nicolas Bichet, à la technique ce matin, Emmanuel Morse d'Incan et Benjamin Orgeret, à la réalisation, je ne sais même pas qui dire, il y en a beaucoup, beaucoup face à moi, qui sont là en train d'écouter les conseils d'Emmanuel Benito. Merci encore pour ce moment ensemble, merci du fond du cœur. Nous nous retrouverons samedi prochain à 7h pour découvrir la programmation idéale de vos discothèques mélangées, de beaux instants précieux grâce à vous. France Musique est à vous, @radiofrance.com, une adresse pour nous joindre. Très bonne journée à l'écoute de France Musique. Tout de suite, c'est L'Échappée Belle, Jean-Yves Larouturou, qui reçoit la chef italienne Speranza Scappucci. Bon week-end.
France Musique, Tour de chant, Martin Penet, le samedi à 11h.
Connu depuis les années 70 pour ses costumes excentriques et sa voix digne d'une artiste lyrique, Diane Dufresne est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses du Québec, où elle est une légende vivante. Pour célébrer ses 80 ans, Tour de chant vous offre ce samedi des concerts parisiens inédits des années 70 et 80, sortis tout droit des archives de l'INA.
Tour de chant, une émission France Musique à retrouver sur le site et l'appli Radio France. France Musique, Guitare Guitare, Sébastien Linares, le samedi à midi.
Je vous donne rendez-vous pour Guitare Guitare, le magazine de toutes les guitares. Chaque semaine, on plonge ensemble dans l'univers des cordes pincées, on découvre des instruments et on écoute les artistes qui mettent en vie la musique. Et dans notre rubrique Guitare de légende, je vous raconte l'histoire des grandes partitions incontournables du répertoire, devenues aujourd'hui des classiques.
Guitare Guitare, une émission France Musique, à retrouver sur le site et l'application Radio France.
Une émission en partenariat avec Guitare Classique. France Musique.
Et je suis à l'heure, et ça c'est grâce à un seul homme, il est 9h30. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Jean-Yves Larouturou, L'Échappée Belle et son invité, Speranza Scappucci.
Musique, L'Échappée Belle, Jean-Yves Larouturou.
Buongiorno a tutte e tutti, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en ce samedi matin pour une nouvelle échappée belle, una fuga bella, comme on dirait sans doute à Rome. Et justement, elle est romaine et elle en a la force de caractère, mais au football, elle réserve son enthousiasme, et ce n'est rien de le dire, à la Juventus de Torino. Elle se donne corps et âme au piano, mais elle le rendit collaboratif, comme on dit en franglais, c'est-à-dire en devenant chef de chant, répétitrice, assistante, une des plus demandées, notamment par Seiji Ozawa, par Riccardo Muti, Zubin Mehta et d'autres encore. Et lorsqu'enfin elle se décide à monter la marche qui conduit à l'estrade elle-même, en guère plus d'une décennie, elle est devenue une des baguettes les plus recherchées sur les scènes lyriques du monde, et pas les moindres, le Met de New York, le Lyric Opera à Chicago, la Staatsoper de Berlin, l'Opéra de Paris bien sûr, le Royal Opera House de Covent Garden, elle est désormais Principal Guest Conductor, premier chef invité à Londres, la Staatsoper de Munich, celle de Vienne aussi, le Liceo de Barcelone, l'Opéra de Rome, et même la Scala de Milan, L'Échappée Belle ce matin, avec Speranza Scappucci. Le début de la Sensitiva d'Ottorino Respighi, elle a grandi dans un jardin, ouvrant ses feuilles comme des éventails au soleil, et le printemps est apparu dans ce beau jardin, que dire de plus? Siamo particolarmente lieti questa mattina di avere con noi la maestra Scapucci. Mais vous êtes parfaitement francophone, non? Bonjour Speranza.
Bonjour Jean-Yves.
Comment va?
Ça va très bien.
Tutto bene.
Tutto bene.
Où allons-nous ce matin?
Alors, ce matin, on va dans la campagne, près de Saint-Pétersbourg.
Saint-Pétersbourg.
En Russie, par une belle nuit d'été.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
de Piotr Ilitch Tchaïkovski, c'était un de ses plus hauts chefs-d'œuvre, son opéra Eugène Onéguine. Et ne nous refusons rien en ce début d'Échappée belle avec vous, Speranza Scappucci, nous écoutions la scène de la lettre au premier acte de cet opéra. C'est la très jeune Tatiana qui est étreinte d'une violente émotion, qui écrit une lettre passionnée à Onéguine. Je me livre à toi jusqu'à la mort, je n'attends que toi. Mais surtout, il y a une écriture musicale absolument splendide. L'orchestre nous fait ressentir, mieux encore peut-être que le chant et les paroles, cette passion de Tatiana, cette exaltation sublime, non ? C'est ça la magie de l'opéra, en quelque sorte, non ?
Eh oui, la chose belle de l'opéra, c'est que c'est du théâtre, mais c'est du théâtre avec la musique. Donc, les grands compositeurs, comme Tchaïkovski était, comme Verdi, comme on pourrait
Puccini,
faire...
Wagner,
Mozart, ils savaient comment mettre en musique justement les passions, les pensées des caractères. Et donc on trouve dans l'orchestre qui... Je pense que dans l'opéra, l'orchestre doit être pas seulement le tapis sur lequel les chanteurs s'appuient, mais c'est vraiment, disons, le cœur qui bat. Des émotions viennent de l'orchestre.
Et là, on entend notamment les bois qui en disent énormément sur ce qu'est l'émotion de cette jeune fille au clair de lune.
Il y a ces grands solos, des clarinettes, des hautbois, mais surtout la pulsation des syncopes.
Ce le rythme boulard, lui-même, oui.
Exactement. Et je trouve que dans Tchaïkovski, ça, c'est parfait, évidemment, mais on le trouve aussi dans les grands compositeurs italiens. Quelquefois, on parle de Bellini, par exemple. Mais ça dépend si c'est joué
avec passion.
Ça dépend vraiment. Le triolet peut être interprété de millions de différentes façons. Et ça, c'est la beauté de l'opéra. Que l'orchestre et les chanteurs font le drame ensemble.
Flashback, nous repartons à la fois à Séville et à Rome.
Écoutez, quittez votre rapport, déserté, c'est la honte, c'est la famille. m'aimes, je t'en prie.
Non, je ne t'aime plus.
Écoute.
Va, je t'aime.
Arrête.
C'était, faut-il le préciser, le duo de Carmen et Don José à l'acte 3 de Carmen, de Bizet. Et c'était un retour à Rome aussi, parce que c'est un des premiers enregistrements que vous avez écoutés, je crois.
Oui, j'étais enfant, j'avais peut-être 8 ou 9 ans, je ne sais pas. Et j'ai un souvenir très fort de cette semaine que j'ai passée à la maison. J'étais malade et comme mes parents travaillaient toute la journée, ils m'ont laissée à la maison toute seule. Et mon père m'a dit, écoute, si tu te sens seule ou tu ne sais pas quoi faire, je te donne une cassette d'un opéra que j'aime beaucoup. C'était la Carmen, justement.
Dirigée par Laurine Mazel avec l'Orchestre National de France.
Oui, avec Placido Domingo, Julia Mignes-Johnson, Ruggero Raimondi.
C'était un mauvais choix.
C'était le film
de Rosi.
De Rosi. Et il m'a dit, tu vas écouter ça. Et il m'a donné aussi la Manon de Massenet. Donc, toute la semaine, j'ai écouté ces opéras pour des heures. Et ce sont en effet deux opéras que j'aime beaucoup, Carmen et Manon. Et c'est un peu bizarre parce que ce ne sont pas des opéras italiennes. Mais c'est un grand souvenir que j'ai de mon enfance.
Et donc après Carmen, c'était un extrait bien connu, La gavotte du cours de la Reine, de Manon, chanté par Iliana Koutroubas avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson. Le répertoire français a donc pris une part importante, peut-être que c'est le résultat de ces écoutes lors de votre enfance, mais Bizet, Berlioz, Massenet aussi, Werther notamment, vous l'avez fait, Ravel à l'orchestre. Il y a quelque chose auquel vous tenez donc particulièrement dans ce répertoire ?
J'aime tout le répertoire français. Il y a une sensibilité, des couleurs qui sont un peu différentes de la musique italienne, par exemple, ou russe ou allemande. Et j'aime beaucoup la langue française aussi, comment on peut chanter en français. Et en tant que pianiste, j'ai beaucoup joué la musique de Debussy et de Ravel. Donc j'ai une attraction envers les harmonies de ces compositeurs. Et donc j'ai déjà dirigé Carmen. J'aimerais bien faire une Manon
sur scène,
sur scène et un Roméo Juliette.
Péléas aussi ?
Péléas aussi, oui. Je trouve que c'est très complexe comme partition, mais c'est un monde qui me fascine beaucoup.
France Musique, L'Échappée Belle, Jean-Yves Larouturou.
À l'Opéra Royal de Wallonie-Liège, vous avez monté une production absolument sensationnelle des Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc. C'était en juin 2023. Pourquoi les Dialogues des Carmélites ?
Tout d'abord parce que j'avais lu l'œuvre de Bernanos et je l'avais étudiée à l'école. Donc c'est un sujet qui m'a toujours fascinée. Je viens aussi d'une famille plutôt catholique. Et ma mère adore cette pièce théâtrale.
Alors, il faut peut-être rappeler pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui ne se souviennent pas de cet opéra qu'il s'agit effectivement du destin, au début de la Révolution française, d'un couvent de carmélites à Compiègne, carmélites qui presque toutes vont être guillotinées, sur scène d'ailleurs, et en 1794, s'agissant de l'histoire réelle.
Et Poulenc, un compositeur très complexe que j'aime beaucoup, en tant que pianiste, j'ai joué beaucoup ses mélodies pour chant et piano. Et donc, c'est une pièce théâtrale en musique absolument fantastique. Je voulais absolument le faire avec un orchestre francophone, disons. Et la chose très belle de cette production a été que tous les chanteurs étaient des jeunes promesses, des
francophones.
Gens francophones, tous ou français ou belges. Il y avait aussi le ténor Bogdan Volkov qui est un
qui est
ténor
devenu très célèbre maintenant,
oui, oui,
en très peu de temps.
Magnifique, le duo avec Alexandra Marcelier, je trouve que c'était un des hauts points de cette performance. Et il y avait une jeune française, Claire Antoine, que je pense c'était sa deuxième fois sur le plateau dans
donc
sa vie.
Beaucoup d'audace, en fait.
Oui, il y avait Julie Pastureau, Julie Bouliane, deux grandes mezzo qui ont chanté Mère Marie et Croissy.
Et Croissy, oui.
Et la mise en scène, c'était vraiment merveilleuse de Marie-Lambert Le Bihan.
Et puis, vous ne parlez pas de l'orchestre, mais c'est moi qui vais le faire.
Oui.
Vous faites sonner cette partition, y compris dans sa modernité, je trouve, et de lui donner une très grande efficacité dramatique. C'est-à-dire, quand ça doit être dissonant, c'est dissonant, ça reste toujours magnifique. On va écouter un extrait qui permet justement à la fois d'entendre une de ses jeunes voix, c'est Claire Antoine, mais avec un orchestre qui dit les choses de manière absolument spectaculaire. C'est la scène qui est après la première nuit en prison. Et donc, nous écoutons Madame Lidoine, la seconde prieure, dans cet extrait de l'acte 3.
Thank you.
Speranza Scappucci, on ne peut pas parler des dialogues des Carmélites et particulièrement de cette production que vous avez menée à Liège en juin 2023 sans évoquer la scène finale, évidemment. Le sujet de cet opéra est certes historique, vous l'avez dit, mais le fond, finalement, c'est la nature humaine face à la mort. Et c'est ça que dit Poulenc, qui lui-même, d'ailleurs, dans ces 3 années où il a composé l'opéra, était confronté à la longue agonie de son compagnon. Et également de la grâce et de la puissance spirituelle de la nature humaine face, justement, à ce gouffre qu'est la mort. Et donc, la scène finale, c'est la montée à l'échafaud des Carmélites, les unes après les autres. On entend ce Salve Regina, l'antienne antique qui parle des croyants exilés dans la vallée de larmes et qui attendent la miséricorde divine. Et on entend ce Salve Regina chanté par les sœurs carmélites et scandé par le bruit du couperet.
Oui, c'est la scène, disons, plus dramatique de l'opéra. J'ai trouvé que une chose qui me frappe beaucoup de cette scène, c'est la manière dont Poulenc écrit ce Salve Regina, parce qu'il y a toutes les sœurs et puis chaque sœur qui meurt. C'est une voix en moins. Les voix diminuent avec la mort de chaque sœur. Et pour la guillotine, nous à Liège, on a décidé de construire un instrument seulement pour faire la guillotine.
Pour faire le bruit du couperet qui tombe.
Oui, il y avait un percussionniste derrière la scène, amplifié, avec un tube, un grand tube, et une épée. Et il passait l'épée sur le tube. Et le coup final, c'était sur une boîte de bois. Et donc, on entendait...
Et c'est spectaculaire. On va entendre la fin de cette scène. Donc, la fin, ça veut dire qu'il ne reste plus que la très jeune sœur Constance. Le couperet tombe. Le Salve Regina est interrompu. Et puis, tout d'un coup, soudain, on l'entend repris. Et il est repris par la seule voix de Blanche de la Force, qui est l'héroïne de cet opéra, qui est saisie pour la première fois de son existence d'une irrépressible volonté de choisir son destin et donc sa mort, et qui décide de rejoindre ses sœurs carmélites et monte à l'échafaud en chantant pour l'éternité le mystère de la résurrection. In seculorum secula.